Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Donna et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Aujourd'hui, je suis à la FME pour un nouvel épisode de Dans la bibliothèque du Paris Noir avec Madame Dominique Rogers pour discuter d'un ouvrage qu'elle a dirigé, Voix d'esclave, paru en 2015 chez Cartala. Madame Rogers, bienvenue au podcast, comment allez-vous ?
Très bien, je vous remercie.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université des Antilles, au pôle de Martinique, spécialiste des sociétés antillaises modernes. Vous vous intéressez également aux relations entre l'Afrique et les Antilles. Vous siégez au conseil scientifique de la FME et êtes membre du bureau du Centre international de recherche sur les esclavages et les traites. C'est bien ça ? Bon, très bien. L'ouvrage nous invite à entendre la voix des sans-voix, c'est-à-dire celle des esclaves des Antilles, de la Guyane et de la Louisiane française. Il s'appuie sur des documents des 18e et 19e siècles qui donnent à découvrir leur histoire dans toute sa complexité. En quoi ce genre de document est inédit ou très rare dans le contexte colonial français ?
Alors, dans le contexte colonial français, on avait une lacune par rapport au monde anglophone, c'est qu'on n'avait pas de récit d'esclaves, et on n'en a toujours pas. Les voix d'esclaves, c'est peut-être le seul moyen qu'on avait, ces documents d'archives, ces interrogatoires de police, ça a été le seul moyen que l'on avait pour entendre la voix des esclaves, parce qu'on n'avait pas de récit à la première personne. Donc on ne pouvait pas, voilà, tout ce qui était les questions de savoir ce que pensait l'esclave, comment il vivait sa vie, et puis tout ce, on ne pouvait pas le connaître. Donc on a des éléments sur le travail des esclaves, sur la famille des esclaves en termes de qui on épouse, etc. Mais on n'avait rien sur l'intimité, sur le quotidien, sur comment eux vivaient les choses. Et donc ces documents d'archives sont exceptionnels, sont riches de ce point de vue-là. Ceci était inédit, sauf deux ou trois, pour la Guyane. En revanche, effectivement, quand en 2015, on a sorti l'ouvrage, il n'y en avait pas d'autres. C'était la première fois. Alors, je suis injuste, on a deux ouvrages qui sont sortis pratiquement en même temps. Un ouvrage de Frédéric Régent, Madame Gonfier, qui portait effectivement sur le 19e siècle, et donc à partir d'archives judiciaires, mais du 19e siècle, et qui sortit à un mois d'intervalle par rapport au mien, qui effectivement, lui, en revanche, porte sur le 18e et sur le 19e. Donc ce sont des sources qui n'avaient pas été publiées, ce sont des sources surtout qui n'avaient pas été étudiées. La raison étant qu'effectivement, on n'avait pas de série complète, on n'avait que des bribes. Ces séries judiciaires, sauf pour la Louisiane, étaient détruites, tout partiellement ou complètement, et donc on n'avait pas cette matière. Et le parti pris, c'était, on avait envie que les gens puissent se faire leur idée, qu'ils puissent être en contact avec ces sources, même si elles ne sont pas, même si on ne peut pas en faire un usage sériel, puisqu'on n'a pas des grandes séries comme pour la Louisiane, mais qu'au moins ils puissent entendre ces voix.
Très bien. Et d'un point de vue plus personnel, comment êtes-vous arrivé à travailler sur ce sujet, sur la question de l'esclavage ?
Pourquoi est-ce qu'on travaille sur l'esclavage quand on est d'origine antillaise ? Je dirais qu'en ce qui me concerne, d'abord je suis née à Paris, j'ai vécu effectivement toute mon enfance, mon adolescence, une partie de ma vie adulte dans l'Hexagone, et jamais je n'ai étudié l'esclavage de toute ma scolarité, même quand j'étais à la fac. Et je pense qu'à un moment donné, on a envie de savoir d'où l'on vient, on a envie de comprendre tout simplement, parce que mes parents sont de la Martinique et de la Guadeloupe, mes parents aiment la littérature, ma mère plus la littérature, mon père plus l'histoire. Donc on avait des bouquins d'histoire, on avait de la littérature antillaise, mais personne ne m'avait enseigné cette histoire, je ne savais rien, j'ai voulu savoir. Et donc en maîtrise, l'opportunité s'est faite. Et donc j'ai pu travailler à l'époque déjà sur Saint-Domingue, pas du tout sur les esclaves, mais à l'époque, je travaillais sur des réseaux de marchands bordelais. Et dans ces réseaux de marchands bordelais, ils avaient des clients qui étaient libres de couleur. Et j'ai découvert, c'est bizarre, c'est parce qu'on, le type de relationnel, ces personnes n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans les bouquins. Et je me suis dit, il doit y avoir une question à redécouvrir. J'ignorais à l'époque, j'étais toute petite jeunette, que les historiens attendaient que quelqu'un fasse la thèse. Et c'est comme ça que je suis tombée dans les livres de couleur, puis ensuite les voix d'esclaves. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on essaye de comprendre ces sociétés antillaises, pendant très longtemps, on n'avait que ce qui venait des États-Unis. On avait, moi je suis d'une génération, on avait vu Racine, on avait vu Roots, etc. Donc c'était cette histoire-là qu'on connaissait.
After 2 years of production, we present this incredible saga in an epic motion picture. Roots, the current number one best-selling novel, is the television event of the year. From primitive Africa to the old South. So, Roots sweeps across the panorama of a young America, bursting with all the dreams, all the joys, and all the hardships of a vibrant country and its people through the years of slavery.
Et à un moment donné, on a besoin de savoir des choses sur son propre territoire. L'esclavage, c'est toujours ancré dans un territoire et chaque société fonctionne d'une manière particulière. Même entre la Martinique et la Guadeloupe, ce n'est pas pareil.
Je voudrais qu'on parle des sources et des contributeurs, contributrices de cet ouvrage. Les Archives nationales de l'Outre-mer reviennent beaucoup, le Louisiana State Museum de la Nouvelle-Orléans également. Dites-moi plus sur comment ça s'est fait, comment ça s'est goupillé, comment on recherche concrètement ces informations.
Alors en fait, cet ouvrage est issu d'un programme de recherche, un programme européen, qui donc réunissait les chercheurs du monde entier, enfin du monde entier, de toute l'Europe, et quelques chercheurs africains, haïtiens, etc. Et dans le cadre de ce projet-là, quand on réfléchissait à qu'est-ce qu'on va faire, l'une des choses, c'était, on s'est dit, on aimerait bien faire entendre la voix des esclaves. Parce que nous, en tant que spécialistes, on trouvait de temps en temps une lettre, de temps en temps un truc, mais on entendait ce discours tout le temps. Mais non, les esclaves ne savaient pas écrire, ce qui est vrai de la grande majorité d'entre eux, et que donc on ne peut pas entendre leur voix. Et on n'avait pas de récit d'esclaves, donc on était un peu coincés. Et on s'est dit, non, il y a force, voilà. Et donc on s'est dit, on va chercher, on s'était donné 15 mois, donc pas grand-chose, hein, mais 15 mois où tout le monde essaye d'apporter sa contribution. Alors ensuite, on avait des spécialistes de la Louisiane, hein, Cécile Vidal, on avait des spécialistes de la Martinique, Myriam Cotias, Stéphanie Belle-Rose, on avait effectivement des gens de la Guadeloupe, Madame Caroline Houdin-Bastide, on avait des gens qui travaillaient sur la Guyane. Alors, on a été aidés par Jean Moumou, le professeur Jean Moumou, et aussi par Madame Jacqueline Zonzon, qui fait beaucoup de pédagogie, qui nous a aiguillés aussi. Donc, c'est un peu comme ça que nous... Et puis, on avait un collègue, John Garrigus, qui très gentiment nous a mis à disposition quelques textes d'un travail qu'il était en train de décrire à l'époque et qui vient de sortir dans un magnifique bouquin, Le secret parmi les Noirs, Secret Among the Blacks, qui effectivement repart sur cette histoire de conspiration autour de Macandal, autour de Médor, et c'était extrêmement intéressant. Et donc il nous a offert un texte qu'il a accepté de commenter, etc. Voilà, on a des auditions, on a des archives judiciaires ou infrajudiciaires, donc c'est-à-dire infrajudiciaires, c'est-à-dire avant le procès, donc tout ce qui relève de l'instruction, quelque sorte, avec des déclarations, des registres de déclarations, et qui sont un peu comme des mains courantes parfois, qui sont ce genre de choses, tout ce qui se fait avant le procès. Et puis on a aussi des interrogations de police. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des voix aussi bien de victimes, de présumés coupables et de témoins. Donc on a des regards différents. Dans certaines affaires, on avait les différentes voix, donc on pouvait approcher la vérité de ce qui s'était vraiment passé dans ce cas-là. Mais ce n'est pas le cas dans la plupart des... Puisque je vous dis, souvent, on n'avait qu'un seul document. On est allé à la pêche. Parce que comme on n'a pas de série pour le monde français, sauf pour la Louisiane, eh bien, la difficulté a été de trouver ces documents et
Est-ce que vous pouvez élaborer quand vous parlez de série, quand vous dites on n'a pas de série?
Alors, bon, les archives judiciaires, ce sont les archives des procès, donc on a les minutes de chaque procès, avec l'instruction, les interrogatoires, les contre-interrogatoires, donc tout ça, ça forme l'ensemble, et on l'a sur des années. Et ça une série judiciaire, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des archives, des procès, des interrogatoires, des enquêtes qui ont été menées par la police et par la justice dans un territoire particulier.
Je voudrais rentrer donc dans le vif du sujet avec deux affaires qui, à mon avis, sont assez proches l'une de l'autre, l'affaire Josapha et l'affaire Médor. D'ailleurs, l'affaire Josapha, vous avez mentionné Stéphanie Belle-Rose que je salue et je l'ai entendu dans le podcast Oliron la Caraïbe où elle présente son travail. On ressent une paranoïa coloniale autour des risques d'empoisonnement dans le monde colonial. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Alors ça, c'est quelque chose qui arrive très spécifiquement après la Révolution haïtienne. Parce que la Révolution haïtienne, certes, ça a concerné la partie française de Saint-Domingue devenue Haïti, mais ensuite, Haïti, c'est un phare. Et il y a une espèce de paranoïa, effectivement, des planteurs. On ne veut pas que ce qui s'est passé à Saint-Domingue arrive chez nous. Et donc, il y a toujours... Parce que maintenant, on sait, on ne peut plus continuer à dire. Dans l'espace français, il y avait très peu de révoltes. Donc, on avait cette espèce de « oui, ils acceptent leur situation », etc. Mais là, ils disent « c'est plus possible ». Et donc, il y a cette peur dans ce premier 19e siècle. Il y a beaucoup d'empoisonnements. Alors, ce n'est pas forcément des empoisonnements faits par les esclaves. Hein, c'est parfois des épizooties. Mais comme on n'a pas les connaissances médicales pour pouvoir le savoir, eh bien, on accuse les esclaves. Et on le fait d'autant plus facilement qu'on a cette espèce d'angoisse. Ils peuvent se révolter. Ils peuvent nous tuer tous comme ils l'ont fait. Enfin, comme on l'affirme qu'ils l'ont fait à Saint-Domingue. Et donc, effectivement, c'est une période où on a des nouveaux outils judiciaires qui sont créés, des tribunaux expéditifs, pour justement, les tuer le plus vite possible.
Donc, c'est ça, les cours prévôtales.
C'est absolument. Ce sont les cours prévôtales qui se mettent en place à cette période et qui, donc, effectivement, laissent peu de place à l'esclave pour se faire entendre sa voix. Et l'esclave a peu de possibilités de s'exprimer. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire Josaphat, et c'est un des usages que je trouve passionnant de ces procès, c'est qu'effectivement, dans le récit qu'il fait, qui est un récit où il raconte son quotidien, il raconte sa vie, eh bien, on voit justement comment cet homme se perçoit. Il sait qui sont ses parents, où habitent ses parents, ce qui est sa maman, qui est le compagnon de sa mère. Il a ses cousins, il a ses frères. Alors, ils n'habitent pas ensemble, mais parce que ses parents, sa mère est sur l'habitation du Fonds Saint-Jacques, qui à l'époque est une habitation domaniale, enfin une habitation qui appartient à l'État. Et effectivement, ses frères vivent à Saint-Pierre. Et donc, on voit qu'en fait, nous avons toujours cette image de familles qui sont brisées par l'esclavage, des gens qui ne peuvent pas vivre en ce qui est vrai. Mais sur cette petite ville, petite ville qui est l'une des plus, qui à la fin du 18e siècle, est la plus grosse ville des petites Antilles et même de la Caraïbe française, eh bien, effectivement, ils se fréquentent. Il se voit dans la journée, dans la semaine. Et cette réalité de cette famille qui se maintient indépendamment du statut des gens et du fait qu'ils appartiennent à tel ou tel maître, c'est très intéressant par rapport à l'image qu'on en a. Et puis on voit la sociabilité, on voit il a son élevage de porcs. Voilà, alors on imagine. Alors quand on connaît un peu la Martinique, et je crois que vous êtes martiniquais, on sait que même jusqu'au début des années 50, eh ben, autour du lycée Schellcher, le grand lycée de la Martinique pendant des années, eh bien effectivement il y avait de l'élevage, il y avait des coqs, il y avait, voilà, et donc encore plus au 19e siècle. Et donc effectivement, on voit toute cette réalité, toutes ces choses qui se passent quand le maître n'est pas là.
Donc ce qui est reproché à cet esclave, c'est de s'être procuré. Ce qui lui est reproché, c'est de s'être procuré de l'arsenic. Et dans ce contexte, justement, de peur de l'empoisonnement, tout esclave qui est pris en possession, en tout cas, qui est accusé d'avoir tenté de s'en procurer passible de lourds châtiments.
Absolument. On a un exemple qui n'est pas dans l'ouvrage, mais qui aurait pu. Moi, je ne le connaissais pas à l'époque. C'est le cas d'Émilie, qui était la servante, effectivement, de la mère de Joséphine, et qui, dans la même période, a été accusée d'avoir tenté d'empoisonner avec des petits morceaux de verre pilés dans sa soupe de pois la mère de l'impératrice, et qui, effectivement, est écartelée, brûlée vive, enfin, on ne saura jamais si elle a fait ou elle n'a pas fait. Elle avoue, mais parfois sous la torture, on avoue tout ce qu'on veut bien vous faire dire. Mais effectivement, dans cette période-là, et puis c'est la mère de l'impératrice, donc c'est allé très vite.
Il y a quelque chose qu'on aperçoit, mais qui n'est pas, en tout cas de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, pas complètement explicité dans ce sujet de l'empoisonnement, c'est aussi le rapport à l'occulte. Le fait que les colons qui ont peur, les planteurs qui ont peur de leurs esclaves, leur prêtent des propriétés souvent surnaturelles, et que empoisonnement et occulte et qu'un bois, souvent ça va de pair. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans vos travaux par ailleurs?
Alors d'abord, on est dans des sociétés qui sont superstitieuses. Hein. Les sociétés françaises, elles ont aussi leurs légendes.
Bien sûr, c'est pour ça. Oui.
Voilà, donc elles ils ne s'appellent pas qu'un poiseur, mais ils ont aussi tout un lot de superstitions qui leur sont propres. Donc en fait, ils sont face à des esclaves qui certes ont d'autres croyances. Tout ce qui relève un peu de l'occulte, etc., ils en sont familiers, même s'ils sont chrétiens. Voilà, il y a un fond de superstition qui est commun. Hein. C'est pas le même stock, mais c'est la même idée d'une relation à l'au-delà ou d'une relation de capacité à changer les filtres d'amour, enfin toutes ces idées-là, c'est des choses qui sont extrêmement classiques.
Le quevoir, c'est la magie noire. Il fait peur si on veut. Il y a le bien comme le mal dedans. C'est pas mal vu, ça dépend. Ça dépend le sort de la personne, ça dépend ce que la personne reçoit.
Étonnamment, ces croyances typiques des Antilles peuvent très bien se mélanger aux différentes religions traditionnelles de la France. la fille aînée de l'église catholique.
Ici, c'est catholique. C'est vraiment chrétien ici. Donc, je vois, il n'y a pas de différence. C'est que des croyants qui viennent. C'est ce que moi, je pense. Et des fois, il y a des gens qui sont dans d'autres religions qui viennent chercher leur bonheur.
Quelle est l'attitude des maîtres par rapport à ça? Mais vous avez aussi bien des maîtres qui font appel à des esclaves guérisseurs parce qu'à l'évidence, ils se rendent compte qu'ils sont bons, aussi simple que ça, que d'autres qui condamnent, oui, c'est de la sorcellerie, etc. Donc on a vraiment les deux choses. Le bel exemple, c'est aussi l'affaire Médor, où on voit effectivement, et puis même Macandal, qui fabrique des objets magiques qui donnent de la force, qui donnent de la puissance, qui permettent d'obtenir l'amour du maître. Et de meilleures conditions de travail. Donc oui, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup dans l'historiographie antillaise. Il y a eu beaucoup de travaux plutôt d'anthropologues sur ces questions-là, parce que c'est quelque chose qui existe encore. On a des affaires, on a toutes sortes de choses, de personnalités qui pratiquent des choses diverses et variées. Mais l'historiographie, à ma connaissance, on n'a pas beaucoup parlé. On a des travaux de Pluchon, on a un certain nombre de choses un peu anciennes, alors que c'est une réalité, en fait. Qu'on en parle peu dans le monde francophone, mais que manifestement, il y a sans doute beaucoup plus à chercher. Parce que on en a des pas. Sur Haïti, on a des choses, hein, et notamment dans les travaux de John Garrigus, etc. Mais effectivement, pour les petites Antilles, on a tendance à dire mais nous, on est créolisé, ça, voilà, c'est l'Afrique et que ça nous concerne pas, etc. Alors quand on voit le maintien des superstitions et puis même de certaines pratiques, regardez-nous comment nous gardons beaucoup la veillée. Ça, c'est des choses qu'on retrouve en Afrique. Alors, c'était des choses qui existaient aussi dans les sociétés traditionnelles françaises, mais certaines pratiques par rapport au repas, il y a des choses qui sont très, très, très similaires. Et donc, peut-être qu'il y a une petite négation, comme on le faisait dans les années 50. Regardez quelqu'un comme Mona, comme moi. La musique des morts, c'est magnifique. Et pendant des années, il a été vilipendé. Alors aujourd'hui... Voilà, aujourd'hui, on le redécouvre, et fort heureusement. Mais dans les années 50-60, c'était affaire de Vienneg, c'était effectivement, il y avait un certain mépris pour toutes ces traditions. Et c'est vraiment le travail de gens comme le docteur Rose Rosette, comme effectivement, j'oublie son nom, cette dame, qui a travaillé, qui a vraiment compilé toutes ces traditions, etc. Il y a eu un changement de regard, mais il en a fallu du temps.
Je renvoie les auditeurs auditrices aussi de façon plus récente. Il y a quelques années, Arte Radio avait fait une émission sur Eugène Mona, et on vous mettra le lien en description pour aller un petit peu plus loin. Je voudrais qu'on revienne sur un sujet qui me travaille beaucoup et qui est bien évidemment abordé dans le livre. C'est le sujet du code noir et de la responsabilité ou de la personnalité juridique des esclaves. Je m'explique. Si les esclaves sont passibles de châtiments, etc., c'est bien la preuve que juridiquement ils existent, que ce sont des personnes, plutôt des personnes mineures. En même temps, on entend souvent dire que le code noir fait de l'esclave un bien meuble. Et paradoxalement, le livre de Jean-François Niort sur les idées reçues sur le code noir affirme que l'esclave est personnalisé par le code noir. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur tout ça?
D'abord, un bien meuble, c'est un peu souvent les gens quand on demande qu'est-ce que c'est que l'esclave. C'est un bien meuble, mais qu'est-ce que c'est? Nous avons tous des biens meubles à la maison. C'est simplement des biens, des objets que l'on peut, des biens de nature différente, que l'on peut vendre, louer, céder, hériter, etc. Ça ne fait pas de nous des esclavagistes. C'est juste, ça permet de préciser la nature de la chose. On a, de manière très, pour les spécialistes, l'esclave est à la fois un bien meuble, parce qu'on peut le louer, le vendre, et un bien immeuble lorsqu'il est effectivement rattaché à une habitation, puisque quand on a une habitation, même si on a des dettes, on peut pas, en théorie, vendre l'esclave séparément de son habitation, de l'habitation sur laquelle il vit. Donc effectivement, l'esclave est meuble, est à la fois un bien meuble et un bien immeuble. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, si l'esclave est responsable de ses actes devant la justice, il a une forme de personnalité juridique. Il y a deux choses à dire. Là, on parle du 17e, 18e. Au 19e, ça change encore, parce qu'il devient une personne non libre. Donc là, ça change encore la donne. Là, il a des droits, il peut les faire valoir, etc. Au XVIIIe siècle, le code, quand si on lit en 1685, le code de 1680, l'édit de mars 1685, dit assez clairement qu'ils peuvent solliciter le gouverneur, le procureur du roi, pour effectivement, en cas de manquement, si on n'a pas respecté leurs droits. Nous, on a le sentiment que dans le code noir, l'esclave, il n'a aucun droit. Lorsqu'on a tenté de traduire en danois le code noir français, ben le gouverneur de l'époque a dit non, dans ce texte, les esclaves ont des droits. Nous ne le voyons pas et nous savons que le code noir, d'abord, n'est pas souvent appliqué, première chose, et deuxièmement, que même s'ils avaient des droits, ils n'auraient pas pu les faire valoir. Et donc, pendant des années, on a pensé que c'était juste une disposition, mais que ça n'a jamais été appliqué. Ce que montrent ces voies d'esclaves, c'est qu'en fait, oui, ça a été appliqué, alors beaucoup plus avec le 19e, voies d'esclaves qui réclament, qui demandent leur grâce, qui effectivement. Et on a une collègue, Marie Houlmar, qui travaille aussi sur ces questions, de grâce qui remonte jusqu'au roi. Donc il y a des démarches qui sont faites dans ce sens-là. Et on a des démarches donc, d'esclaves. On a d'abord simplement un esclave ayant commis un vol, un esclave ayant tué, eh bien, le maître qui est lésé demande justice. Et donc c'est pour ça qu'on a ces interrogatoires. Et là encore, tout ça participe de l'humanité de l'esclave. Parce que il y a des époques où on avait les animaux qui allaient en justice, mais c'est quand même rare au XVIIIe siècle. Et là, effectivement, il y a une part de personnalité juridique qui leur est donnée. Mais c'est toujours un peu compliqué à expliquer, mais cette idée de personnalité juridique, elle apparaît petit à petit. Et donc, nous, on a l'impression qu'un homme est forcément un sujet de droit avec des possibilités. Mais
à l'échelle de notre histoire, c'est une invention du 19e siècle
Du 18e, je pense, du 18e. Fin du 18e, du 19e, de la Révolution française. Et voilà, et c'est des choses qui se digèrent petit à petit. La meilleure preuve étant quels sont les droits des femmes en matière politique, et même dans un certain nombre de... en matière même matrimoniale, etc. Donc, nous, on a l'idée toujours que si on est homme, on a nécessairement plein de droits, mais la réalité, c'est pas tout à fait celle-là.
La question des femmes, on va y arriver. J'ai juste une question avant ça. C'est, tout à l'heure, vous me demandiez quelle affaire m'avait le plus marqué. Je crois que en réalité, c'est Raymond contre Jean-Baptiste Huet. C'est l'histoire, donc, si je ne me trompe pas, d'un esclave qui est arrêté parce qu'il a été frappé par un blanc, que son maître blanc lui a demandé de répliquer, d'aller frapper ce blanc à son tour, et effectivement, il est interdit. Dans le code noir, justement, c'est très lourdement réprimé de frapper un blanc, sauf que là, il a respecté l'ordre de son maître blanc. Donc, du coup, c'est tous ces détails qui font aussi parfois de ce contexte légal un vrai casse-tête.
Alors, ce n'est pas l'aspect légal qui m'intéresserait le plus, même si effectivement, il y a eu procès, un premier procès, condamné, deuxième procès, on appelle, etc. Et finalement, mais en fait, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'esclave qui a utilisé ce biais, qui a utilisé la loi pour dire « Ah mais moi, je ne voulais pas. Mais effectivement, mon maître m'a dit « Si je n'obéis pas à mon maître, j'aurais été puni. Donc, je n'avais pas le choix. J'étais obligé d'obéir à mon maître. » Donc, c'était très astucieux parce qu'il n'a pas tort. Et donc, la question, c'est doit-on d'abord obéir au maître ou d'abord obéir au code ? Donc, et la réalité, c'est que dans la vie quotidienne, souvent, maîtres et esclaves partent ensemble pour aller châtier le voisin ou pour aller régler leurs affaires avec le maître. Donc, les choses sont plus compliquées. Et donc, effectivement, mais ce texte était très intéressant. C'était pas très long comme affaire, mais parce que justement, par rapport à l'image que nous avons. Dans le code, c'est marqué, première fois, on vous met la fleuse de lys, deuxième fois, on vous coupe les oreilles, troisième fois, on vous coupe les... Mais la réalité, c'est pas ça. Et c'est pareil pour ces histoires de... Effectivement, c'est un cas que nous aurions cru impossible. Et là, on a un cas concret où on voit que, les coloniaux, alors qu'est-ce qu'on fait ? Si on laisse le code supérieur au maître, eh bien alors, c'est la porte ouverte à tout.
Et donc l'esclave a été acquitté.
Et les, je me souviens pas que de mémoire, il a été acquitté. Donc c'est pour ça que c'est pas, c'est pour ça que ces histoires d'esclavage, c'est très compliqué. Nous, pendant longtemps, l'historiographie et les gens ont retenu le code noir. Mais tous ceux qui travaillent sur le code noir savent que ben, c'est une référence et c'est pas forcément ce qui se pratique au quotidien. Et donc effectivement, on sait pas au travers. Alors, oui, c'est important de connaître finalement que nous dit le code. Il nous dit ce qu'une partie de la société, ce que l'État souhaite. Il ne nous dit pas ce qui se vit au quotidien. Je donne souvent cet exemple à mes étudiants. Je pense que la consommation de haschich et la vente de haschich sont interdits en France. J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui consommaient quand même.
On peut en trouver en France, oui. Malgré les lois très, voilà, très sévères.
Donc c'est pas parce qu'effectivement que c'est interdit par la loi que ça nous dit ce qui se pratique au quotidien. Et c'est pareil dans les sociétés esclavagistes. Il y a une loi auquel on fait référence. Par exemple, sur le fait qu'on ne peut pas séparer un enfant, un pubère de sa maman, eh bien, parfois on a des textes qui vous disent que malgré la loi, le règlement qui prévoit que, dans l'intérêt de l'enfant, parce qu'on souhaite le libérer, eh bien, on a libéré l'enfant et pas la maman. Et donc on a séparé des enfants qui étaient jeunes. Alors parfois c'est pour ça, parfois c'est pour les vendre.
Bien sûr.
Mais donc, il faut sortir un peu de cette idée que le code nous dit ce qu'est l'esclavage. Parce qu'en fait, non.
Justement, je voudrais qu'on parle de la condition des femmes. Des femmes esclaves. Louisiane, 1748, Baraka, esclave condamné à mort pour avoir tué sa femme qui lui tenait tête. Il y a plusieurs récits où on parle de ces femmes, en fait, esclaves qui subissent une sorte de double peine. Je pense aussi au chapitre sur une femme esclave qui s'appelle Combat. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert dans vos recherches sur la condition des femmes esclaves dans les colonies françaises?
Alors moi, dans cette histoire-là, ce n'est pas la question des femmes qui m'a le plus intéressée.
D'accord.
C'était la question d'abord de ce qu'est un commandeur. Nous avons l'image essentiellement du chef d'équipe, de celui qui... Et là, on le voit, ce commandeur, qui intervient pour essayer d'empêcher Baraka de tuer sa femme et qui se mêle de cette affaire. Et où on voit donc ce rôle un petit peu aussi
conciliation.
De conciliation, d'animateur de la vie dans les quartiers serviles et comment il essaie... dans une communauté, je ne sais pas si c'est pas le maire, hein, mais il a un rôle un peu particulier que je ne soupçonnais pas.
D'accord.
Ça, c'est une chose que j'ai découverte. Sur la question des femmes en société esclavagiste, il y a plein de choses à dire. Mais ce n'est pas forcément mes propres travaux, c'est celui de d'autres collègues. On voit un certain nombre de femmes qui, elles sont au cœur des sociabilités serviles. Oui. Elles vont parfois organiser des soirées. Alors, on pense tout de suite à nos soirées antillaises, mais en tout cas, elles vont organiser des soirées où elles vont louer les services de musiciens et où elles vont donc finalement recréer des espaces de sociabilité pour les esclaves. On a ce rôle-là, on le voit dans... Là, c'est un exemple qui venait, je pense que c'était les Bahamas, mais on le voit dans d'autres espaces. On le voit dans l'affaire Kumba, où effectivement, il y a ces repas qui sont pris. Il y a toute une sociabilité où les femmes ont un rôle central, parce que c'est elles qui vont faire la cuisine, qui invitent les gens et qui créent finalement des espaces où on refait famille, on refait société. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours intéressantes. Dans l'affaire du Gaoulé, les femmes ont un rôle symbolique qui est plutôt de réaliser les colliers qui sont d'initiation, hein, qui marquent l'entrée dans la communauté, dans la société d'esclaves de Saint-Pierre. Donc on a tout ce rôle, et moi qui ai beaucoup travaillé sur les livres de couleur, j'étais très impressionnée parce que c'est les premières femmes... Dans tous les pays des Amériques, 2/3 des esclaves affranchis sont des femmes.
D'accord.
Et donc,
alors que, si je ne me trompe pas, ils ne représentent qu'un tiers des esclaves arrivés, en tout cas des captifs, voilà, arrivés. Oui.
Oui, elles ont donc un rôle fondamental dans la société libre de couleur, ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit leur testament, ces femmes, leur premier sujet de préoccupation, ce sont leurs enfants. Trouver quelqu'un pour les élever, trouver quelqu'un pour les affranchir s'ils sont encore dans l'esclavage, trouver quelqu'un pour les éduquer, leur faire donner un métier. Ces femmes qui étaient des femmes esclaves, on voit bien qu'elles ont un rôle dans la communauté extrêmement important parce qu'elles vont pouvoir permettre à la famille de pouvoir se libérer et se donnent les moyens. Donc elles refont famille. Et on a, alors on ne peut pas s'empêcher de penser à cette image qui est parfois un peu aujourd'hui remise en cause de nos femmes potomitans, des sociétés antillaises. Et on voit que dans
potomitans, est-ce que vous pouvez élaborer pour les gens qui n'ont pas la chance d'être...
Excusez-moi. anti-méduanais. Qui n'ont pas la chance de connaître nos sociétés si particulières. Oui. Le poteau mi-temps, c'est le poteau qui est au milieu. Le mi-temps, c'est le milieu, comme le mi-temps du lit des contes de notre enfance. Donc, c'est le poteau qui est au milieu de la case et qui tient la case, en fait, qui le toit va s'appuyer dessus. Donc, c'est le poteau central. En disant que les femmes sont des poteaux mi-temps, on évoque le fait que souvent dans les familles antillaises, les femmes, on a des femmes avec beaucoup de caractère, qui sont des femmes fortes, qui tiennent la famille, qui s'occupent des enfants, qui font tourner la marmite, qui font tourner la famille, souvent aussi des familles monoparentales.
J'allais dire, oui.
Voilà,
oui.
Et qui donc, c'est elles qui sont le socle de la famille, qui sont le poteau, qui sont celles qui font. Voilà, elles sont le centre et c'est le pilier, voilà, c'est le mot que je voulais, c'est le pilier de la famille.
Cette discussion autour de la place des femmes dans la société esclavagiste, vous disiez que. Bon, déjà, le rôle qu'elles jouent, beaucoup plus, elles sont plus nombreuses, enfin, il y a une plus forte proportion de femmes affranchies, aussi libres. Et il y a la question aussi des violences.
Alors, il y a aussi la question des violences. Donc, effectivement, j'avais évoqué ce rôle de reconstruction de la communauté servile, de reconstruction des familles de couleur, qui, moi, me paraît très, très important. Mais effectivement, elles sont. Leur condition est plus dure que celle des hommes dans le sens où, comme les hommes, elles travaillent dans les champs, elles connaissent des conditions, et puis même dans la grande maison, mais elles connaissent des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Elles sont affamées, parfois en tout cas, elles ont un régime de malnutrition, elles ne sont pas respectées dans leur maternité, elles travaillent jusqu'à la fin, parfois elles accouchent dans les champs, enfin, donc elles ont des conditions de vie qui sont très difficiles, mais effectivement, qui sont communes aux hommes, sauf la question de l'accouchement, mais elles sont aussi, elles peuvent être concernées par des violences sexuelles, que ce soit de viol, à tout, enfin voilà, elles sont à la merci du propriétaire, parfois même aussi des contremaîtres, de l'invité qui vient.
Des autres esclaves.
Ou des autres esclaves aussi, c'est une question qui est moins étudiée, mais qui doit exister aussi. Et donc, on a pu parler de double peine parce que, au-delà de ce qui est lié à la condition servile, au travail servile, eh bien, il y a tout le reste, en fait. Mais il y a aussi la question de la famille. Dans certains cas, elles sont séparées de leur conjoint ou de leur compagnon ou de leurs enfants, ce qui, pour une mère, est quand même extrêmement difficile.
Vous avez été conseillère scientifique à l'habitation La Pagerie en Martinique avec une façon de raconter l'histoire donc, de cette plantation, de cette habitation. De sortir un peu d'une certaine nostalgie du bon vieux temps, de parler de l'impératrice, etc. Et moi, il y a quelques mois, j'ai eu la chance de visiter la Whitney Plantation à côté de la Nouvelle-Orléans, qui se réclame, en tout cas qui se veut être une plantation qui enlève le glamour et la nostalgie de l'habitation, de la plantation.
Le musée rend aussi hommage aux enfants. On les retrouve dans l'église de la plantation. Ibrahim Assek, le directeur de recherche, voulait mettre en valeur, différemment, le témoignage des adultes.
Ils ont été interviewés dans les années 1930. La plupart étaient très âgés, bien sûr. Mais la mémoire de l'esclavage qu'ils portaient, ou qu'elles portaient en eux, c'est la mémoire de leur enfance. Au lieu de les représenter comme étant des personnes âgées, nous avons décidé de les représenter comme étant des enfants.
Ça peut paraître bizarre aux auditeurs et auditrices, mais il y a des gens qui veulent visiter des plantations parce qu'ils ont une certaine nostalgie du 18 et du 19e siècle. Comment on fait ça? Comment on enlève techniquement c'est quoi la réflexion derrière?
C'est une grosse question. Mais d'abord, pour la première chose à dire, c'est qu'effectivement, il y avait... Et il y a encore, aux États-Unis, la Whitney Plantation, c'est vraiment un cas très spécifique. C'est, selon Anna Lucia Rougeau, le meilleur et peut-être même le seul exemple où on a réussi à sortir d'un processus d'invisibilisation de l'esclavage. En Martinique, c'était Christine Chivalon qui le dénonçait dans les années, au tournant des années 2000. Processus d'invisibilisation. On nous montre des superbes plantations, de beaux meubles. On nous parle des maîtres. Et voilà, dans des décors luxueux, etc. Mais on ne nous parle jamais des esclaves. On ne nous parle parfois même pas des gens qui cultivent la canne, de ceux qui cultivent le café. Et en fait, on nous vend du rêve. On nous vend du rêve, on nous vend effectivement... Et pourquoi il y a des gens qui veulent voir... C'est le côté princesse. C'est Scarlett O'Hara, excusez-moi si je fais cette comparaison. Mais c'est de ça dont c'est agi. C'est les femmes dans les belles robes, etc. C'est du rêve que les gens veulent, que certaines personnes veulent voir.
Et n'allez pas compter fleurette à une autre jeune fille, car je suis terriblement jalouse.
Ne craignez rien, mademoiselle O'Hara, je ne vous quitterai pas.
Oh, c'est inouï, Frank Kennedy, c'est que vous êtes séduisant avec vos favoris.
Oh, merci, merci, mademoiselle Scarlett.
Vous savez, Charles Hamilton et Ralph Calvert veulent que je m'asseye auprès d'eux au pique-nique, mais je leur ai répondu que je vous l'avais déjà promis. Il n'y a pas de quoi s'amuser, regarde là. C'est à ton soupirant, maintenant.
Oh, c'est vraiment flatteur pour moi, mademoiselle Scarlett. Je vais tâcher d'arranger ça, mademoiselle Scarlett.
Pourquoi ta sœur est-elle furieuse contre toi, Scarlett? Lui as-tu pris son soupirant? Comme si je ne pouvais pas trouver mieux que cette vieille fille en culotte.
Il y a un public qui a cette envie de... C'est un petit peu, voilà, le temps des rois et des reines, etc. Qui, voilà. Nous avions envie... alors nous, c'est la directrice, Manuela Jungling, plus la directrice, mais qui l'était à l'époque. Et puis Jessica Pierre-Louis, qui est effectivement donc une de nos anciennes étudiantes de l'Université des Antilles, docteur en histoire moderne. Ainsi que, et on a eu la grande chance d'avoir Ivana Vaitilangon, qui nous a aidés pour les aspects très concrets du comment on fait. Et nous, on voulait... On est parti de cette idée avec la directrice qu'une habitation, c'était un lieu où avaient vécu et travaillé des maîtres, d'un côté, et d'autre part des esclaves. Et qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait plus, nous ne voulions plus qu'on nous présente une habitation où finalement, je dirais que là, les 99% de la population martiniquaise ne peut pas se reconnaître. On ne leur parle toujours que des maîtres, et des descendants des maîtres. Et où nous voulions effectivement que certes, on parle de Joséphine parce que c'est son lieu de naissance, c'est là qu'elle est née, qu'elle a vécu, que sa famille vivait. Mais il y avait aussi sur la plantation des esclaves et on voulait qu'on parle des deux.
Elle devient ensuite impératrice.
Voilà.
Elle épouse en deuxième noce Napoléon Bonaparte.
Voilà, Napoléon Ier. Mais la pagerie, ce n'est pas que cela. Je vais vous emmener visiter notre patrimoine bâti.
Que cultivait-on sur l'habitation?
Le indigo, le cacao, le manioc. Là, c'est le bâtiment patrimoine bâti, industriel.
Oui. Que peut-on découvrir dans ce musée?
Alors, des objets en lien avec l'histoire du site, des personnages qui ont marqué le site. Mm-hmm. Bien sûr, Joséphine de Beauharnais. Oui. Et puis, on se retrouve quand même au XVIIIe siècle, dans cette période esclavagiste.
Oui, parce que Joséphine était fille de colons.
Donc là, on a changé la scénographie de ce domaine, le domaine de la pagerie, pour présenter d'un côté, effectivement, on a gardé une salle, on a deux sas, même, on a une salle pour le fondateur du lieu, donc le docteur Rose Rosette, deux salles pour la famille de Joséphine, et puis on a ce qui était l'ancien musée qui était dédié à Joséphine, il y avait le lit de Joséphine, il y avait tout ça. Tout ça, cet espace-là a été dédié aux esclaves et non pas effectivement à Joséphine. Alors, évidemment, imaginez la presse, ah mais non, mais vous avez enlevé Joséphine, etc. Mais on n'a pas remplacé. C'est un projet qui est équilibré, qui correspond à la réalité historique. Dans cet endroit-là vivaient des maîtres et des esclaves. À la voûte des plantes jeunes, ils ont fait le choix carrément, donc ils vont plus loin que nous. Là, ils ont effacé.
Ils ont effacé les maîtres.
On ne visite pas la partie maison de maîtres, on ne parle que des esclaves. Nous, on voulait quelque chose d'équilibré. C'est Joséphine, c'est sa famille, c'est tout à fait normal de parler d'elle. Mais il n'y avait pas que Joséphine. Et je pense qu'on est au XXIe siècle et que les Martiniquais ont le droit d'avoir des endroits où on peut parler aussi de leur histoire. Je ne dis pas que l'histoire de Joséphine, ce n'est pas aussi leur histoire, parce que je pense que tout ça, c'est notre histoire. Hein. Je ne choisis pas entre les Amérindiens, les Blancs et les Noirs. Ce sont tous nos ancêtres d'une manière ou d'une autre. Mais pour autant, à la Martinique, on avait ce souci qu'il n'y avait pas de lieu. Les Guadeloupéens, ils ont quand même le Memorial Act. Il y a eu un très beau travail avec la route de l'esclave qui fait qu'on a des lieux dans toutes les plantations. Il y a des choses qui évoquent les esclaves, etc. Il y a vraiment une démarche qui a été mise en œuvre. En Martinique, on était resté, parce qu'il y a quand même des frémissements, il y a des choses qui se font. Le discours dominant sur la plupart des habitations, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a déjà des espaces pour chacun. On a un espace qui est un peu commun, c'est l'espace du moulin, où on parle donc de comment on fait du sucre, marchand et compagnie, mais on parle de qui fait du sucre. Et on a le nom du commandeur, le nom du chauffeur, le nom du sucrier, le nom des équipes qui travaillaient. Et pas simplement, on parle d'économie, on le fait aussi, on a des rôles, on voit comment on fait, enfin voilà, tout, on a ça, mais on n'a pas que ça. Quand on parle du comment on a fait, Une des choses qui nous a servi, c'est qu'on a fait faire des recherches archivistiques sur effectivement cette famille, sur l'histoire de cette habitation. Et on a pu retrouver notamment deux inventaires après décès. Un qui a été fait au moment de la mort de la maman de Joséphine et un autre qui a été fait au moment de la mort de Joséphine. Et là, on avait le listing de tous les biens. Et parmi tous les biens, on avait donc l'inventaire des esclaves. Et une des choses qui peut être une des choses les plus émouvantes, on a créé ce qu'on appelle un mur des noms, comme on en voit parfois pour le mettre dans les champs de bataille, on fait les cimetières, etc. Donc un mur des noms avec l'ensemble des noms des esclaves qui ont vécu à cet endroit-là au début du 19e siècle. Alors, je ne sais plus si on a pris celui du premier ou du deuxième inventaire, mais peu importe. Et c'est très curieux. Alors d'abord, on a des gens qui pleurent. On a des gens qui sont extrêmement émus. Je crois, ce qu'ils disent, c'est que soudain, ce ne sont plus des nombres, ce n'est plus des masses, ce n'est pas les esclaves. C'est Marie-Louise, c'est Marion. On voit des mamans avec enceintes, des enfants, des grands-parents. On voit des familles. Ah, mais on voit des prix aussi. On voit l'état de la personne, on voit sa spécialité. On voit qu'il y en a qui sont, qui valent plus cher que d'autres, qui sont charpentiers, qui sont menuisiers. On voit soudain, et parce qu'il y a le nom, souviens, c'est une personne. Les gens disent c'est un bien meuble, c'est voilà. Parfois, même dit c'est comme un animal, c'est comme une chose. On peut. Non, c'est pas ça. C'est bien une personne. Et là, soudain, on voit que c'est une personne. Et donc, on a eu des petites filles qui a crié, il y a mon nom. C'était très très. Et puis on a eu des gens qui étaient en larmes parce que. Et c'était pas des larmes de tristesse. C'était. J'ai eu le sentiment que c'était. Alors c'est de l'émotion pure pour certains. Pour d'autres, c'était du soulagement. Enfin. Enfin, on parle de moi. Enfin, c'est moi. Enfin, je suis là. Moi aussi, je suis dans le musée. C'est des choses qui, pour moi, sont très difficiles. On n'imaginerait pas aller en Scandinavie, au Danemark, et qu'il n'y ait pas des musées des Vikings. Nous, on est en Martinique et il n'y a pas de musée sur les esclaves. Les populations d'origine européenne pure, si on peut dire ça comme ça, enfin, ou qui se présentent comme telles, elles représentent 1% de la population. S'il y a un musée, ben je suis désolée qu'il faut qu'il y ait tout le monde. Comment un papa, une maman martiniquaise peut pas emmener son enfant dans un musée pour expliquer une histoire qui est encore si présente au quotidien et qu'il n'y a pas un lieu pour expliquer ? C'est, pour moi, c'est juste incompréhensible. Donc nous, à notre petit niveau, avec à l'époque donc le soutien de la ce qu'on nous appelons la ministre de la Culture, en tout cas la personne en charge du Culture et Patrimoine en Martinique, nous avons avancé avec de très très petits moyens. Mais donc on a fait donc ce mur des noms qui est un choc pour les gens et ce qui m'étonne moi-même, hein, mais c'est comme ça. Je n'ai pas les moyens d'expliquer le pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne.
Ce que vous dites sur les noms et la réaction des gens, ça me fait penser à l'initiative qu'a eu le CM98 en Choucage, donc de retrouver les noms des affranchis, des émancipés de 1848. Et je me souviens d'un documentaire où on voyait, donc je crois qu'ils les avaient exposés en extérieur à Saint-Denis. Que donc il y avait des gens d'origine antillaise, guyanaise, etc., qui s'y rendaient et qui découvraient, qui voyaient en fait leur nom de famille, faisant un lien avec quelque chose qui s'était passé en 1848 et qui souvent fondaient en larmes, effectivement.
Le nom, le numéro, tout ça, ça inclut toute la souffrance qu'ils ont eue, qu'ils ont subie, d'où ils viennent, je ne sais pas, de quelle ville, apparemment, s'ils venaient d'Afrique.
Marie-André trouvera peut-être des réponses ici. Dans les locaux de CM98, l'association à l'origine du monument.
G-A-N-2-L.
Comme chaque semaine, un atelier généalogie est organisé.
Je pense que c'est mon frère.
Tu penses, mais tu n'es pas sûr.
Je ne suis pas sûr.
Pour aider les personnes à retrouver leur filiation, l'association s'appuie sur un site internet, une base informatique constituée à partir des registres où ont été écrits les noms de famille des esclaves. Des noms donnés arbitrairement lors de l'abolition de 1848.
Et ce qui m'amène à la question bonus, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est l'apparition de l'esclavage et de son abolition dans l'espace public à Paris. Il y a eu des progrès, il y a des choses, je pense, qui ont été faites depuis une dizaine d'années que je m'intéresse à ce sujet. Quel est votre avis sur ce sujet-là, vous, en tant qu'experte, qui n'êtes pas que à Paris, mais qui voyagez, vous avez l'occasion de voir des initiatives dans d'autres pays? On se situe où à Paris sur ce sujet-là?
Juste rajouter une toute petite chose pour l'avertir, parce que vraiment, je veux rendre hommage au travail de mes collègues. Au-delà du mur des noms, la partie musée, donc évoque tous les différents types d'esclaves, etc. Mais aussi, on a réussi à avoir des parcours de vie. On a l'histoire d'Émilie, on a un magnifique, ce qu'on appelle une douche sonore, avec une artiste extraordinaire qui, effectivement, ne s'est pas donné sa voix pour donner une voix au sans-voix. Et là encore, c'est extra. Voilà. Mais voilà, c'était juste pour rajouter.
Oui, merci pour la précision.
Alors, qu'est-ce que je pense du fait que dans l'espace public, on donne.
On voit apparaître le thème de l'esclavage.
Moi, je pense que c'est normal, parce que c'est notre histoire. Et dans notre histoire, il y a effectivement, la France a été un grand pays colonial. Elle a dans sa population des gens de toutes sortes d'origines qui ont tous participé d'une manière ou d'une autre à la création de notre République et à son maintien. On oublie trop on appelle l'impôt du sang, la participation aux guerres. On pense aux tirailleurs, on pense effectivement participation aux guerres. On peut parler aussi, on a des gens, des anciens libres de couleur qui sont devenus maires de communes en France ou qui ont créé des entreprises. Voilà, ils ont pris leur part et je trouve tout à fait normal qu'on le montre dans l'espace public. D'autant plus normal qu'aujourd'hui, notre société, elle peut sembler un peu en panne en matière d'intégration, alors qu'il y a eu des époques où on parlait des hussards noirs de la République qui faisaient un travail remarquable pour aider les jeunes justement à s'intégrer, à trouver leur place. Là, société un petit peu... La société en panne, difficulté... C'est, je pense, d'autant plus important que dans l'espace public, eh bien, les gens, le sentiment qu'on les reconnaît, que leur apport à cette société française soit reconnu, d'abord parce que c'est indéniable, ils le méritent, et puis voilà, on peut pas, enfin voilà, notre société française, elle est multiculturelle aussi, mais elle est faite de gens d'origines différentes, de parties de la France qui sont diverses, et je pense que c'est très important que ça se voit dans l'espace public, ça participe, je pense que quand on se voit, vous connaissez tous ces histoires de ces petites poupées noires où on en ferait aux petites filles et qui préfèrent nommer la poupée blonde, elle est beaucoup plus belle.
Oh ! Quelle est la poupée la moins jolie ?
La noire. Parce que j'aime pas trop le noir.
Pourquoi ?
Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche.
Ben, le fait d'avoir des journalistes à la télé de couleurs différentes, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux être aussi brillant que le monsieur ou la dame, c'est important. Qu'avoir et de voir dans l'espace public que l'on honore des gens, des noirs, alors moi aussi je peux être aussi, ça peut être moi demain, c'est très important. Et c'est pour ça que alors ensuite, c'est une démarche qu'on voit dans plein d'autres pays.
Et j'allais vous demander comment on se situe par rapport à ces autres pays. Je ne sais pas, moi, ce que je vois, par exemple, ce que j'ai pu voir récemment aux Pays-Bas, par exemple, Amsterdam m'avait semblé un peu plus téméraire sur certains points que Paris. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais...
Il est clair qu'on a avancé. Mais il est clair qu'on a encore du chemin à faire.
On n'est pas les premiers.
On n'est pas les premiers. Mais c'est vraiment un mouvement qui est européen. Moi, j'étais au Danemark, on s'imagine le Danemark. Non, moi, j'ai donné une conférence justement sur ce qu'on avait fait à la Pagerie, à l'Île et Ramiro. Et il y avait plein de gens des musées parce qu'ils sont confrontés à la même question. Comment on met en valeur aussi ce point de leur histoire et de notre histoire. Et voilà, donc c'est partout que la question est posée. Moi, je suis très impressionnée. En quelques années, vraiment au niveau des... Voilà, il y a une prise de conscience et il y a des efforts. Alors, on n'est pas tous au même rythme. Le Musée du Beau Monde, le Musée d'Aquitaine fait des choses le Château des Ducs de Bretagne font des choses extraordinaires. Il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal, qui ne comprennent pas encore. Il faut leur expliquer. Il y en a qui font des pas. Au Louvre, il y a des choses qui sont en préparation.
Il y a eu cette fantastique exposition au Panthéon.
En avoir discuté avec des gens, ils étaient très ému que ça a été fait. Quelque part, on est reconnu dans notre participation à l'histoire de France. C'est comme un peu, certains ont discuté, la présence de Joséphine Baker, effectivement, au Panthéon. On parle de Paulette Nardal. C'est une manière où on a quelques stations. Il y a une station Aimé Césaire, je crois.
Oui, à Aubervilliers, tout au nord du métro 12.
Voilà. Je pense que tout ça participe de dire, ce sont des gens qui ont honoré la France et la France les honore. Et je pense que c'est bien et que je pense que c'est normal d'abord. Mais voilà, on est sur la route. On pense qu'il faut poursuivre sur cette route. Je pense que c'est un devoir qui honore la France. D'autant plus que souvent, ces gens, finalement, ils ont intégré les valeurs de la République, nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et ils ont continué ce processus de la même manière. manière que dans la Révolution française, ce sont les esclaves de Saint-Domingue qui ont permis à la Révolution française d'être aussi complète, et donc d'abolir l'esclavage, que n'a pas fait la Révolution américaine, eh bien ces gens, ils ont, par leur travail, leur intégration dans la société française, ils ont continué à, finalement, à valoriser, ils sont l'exemple, ils accomplissent, excusez-moi, les promesses de notre République. Et à cet égard, je pense qu'il est tout, tout à fait normal de les honorer.
Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. J'espère que cette discussion vous aura donné envie de vous procurer cet ouvrage, Voix d'esclaves, ou même de visiter l'habitation La Pagerie en Martinique. Madame Rogers, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous souhaitez ajouter un dernier mot ? Est-ce qu'il y a quelque chose que, je ne sais pas, des travaux sur lesquels vous travaillez, des choses à venir ?
Vous le savez peut-être, ou peut-être pas encore, là en ce moment je suis à Paris pour un an pour préparer un livre blanc sur les recherches sur les, qui sont menées en France sur les esclavages, les traites et les post-esclavages. C'est un très gros travail puisque ça concerne toutes les disciplines, le droit, l'économie, l'archéologie, la psychologie. On a même des thèses maintenant, ce qui s'intéresse au traumatisme, aux séquelles de l'esclavage. Et voilà, et donc je pense que là encore, c'est une étape que nous sommes en train de franchir et je m'en réjouis.
Ah ben, j'ai hâte de voir tout ça. Cette émission a été réalisée par Juliette Frigui. Merci Juliette. Je remercie évidemment la Fondation pour la mémoire de l'esclavage pour son soutien et son accueil. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. D'ailleurs, nous n'avons pas assez de commentaires sur Apple Podcast, donc lâchez-vous. Si vous avez des remarques et des suggestions, je suis tout ouïe. Et si vous souhaitez participer à une balade, c'est très simple. Envoyez-nous un email, leparisnoir@gmail.com. Bye bye.